Je vous propose de commencer avec une minute d'avance. Je vois que l'effet de la reprise des transports se fait sentir dans la salle et j'en suis ravi. Je voulais vous confirmer, bien entendu, que c'était mon dernier cours. Ça renforce le titre que j'avais donné en début d'année à cette série de leçons, Ultima Verba. Là, c'est vraiment Ultimissima Verba aujourd'hui. Et bon, un petit peu d'émotion dans tout ça, vous voudrez bien le comprendre. Ce que j'ai essayé de faire pour cette dernière partie, et ça concerne à la fois ma leçon et le séminaire que va nous donner Tamara Galsvernik après, c'est de peut-être, plutôt que de rentrer dans les détails, comme je l'ai fait très souvent, des mécanismes, des maladies infectieuses, des processus de symbiose, de revoir un peu la dynamique de tout ça, à la fois sur le plan fondamental, mais aussi sur le plan de la clinique, de l'épidémiologie. En particulier, les dernières leçons ont été très centrées sur l'émergence des maladies infectieuses, sur le risque de perte des antibiotiques, les problèmes de la vaccination et de la défiance vaccinale, tout ce qui, dans une certaine mesure, menace l'équilibre de la santé publique, en tout cas celle qui concerne les maladies infectieuses. Et l'actualité récente nous confirme, s'il en était besoin, l'importance de comprendre un petit peu les mécanismes, je dirais presque les ficelles de tout ça. Donc ce que j'ai essayé de faire dans cette dernière partie, c'est de peut-être revoir un peu plus le regard qu'on porte sur les microbes, sur les maladies infectieuses, éventuellement dans le nord, entre guillemets, c'est ce que je vais vous faire, et puis aussi, et c'est ce que fera Tamara dans le sud, et vous verrez que les deux sont très complémentaires. Donc, j'ai appelé de façon un petit peu provocante cette leçon Un monde sans microbes, avec bien sûr un point d'interrogation, mais peut-être aussi des points de suspension, car comme vous le verrez, sans doute on ne verra jamais un monde sans microbes, mais un monde appauvri en microbes, ça, on y va à grandes enjambées, et les conséquences sont probablement déjà notables. On reviendra un petit peu là-dessus au fur et à mesure. Donc, un monde sans microbes avec, je demande beaucoup d'indulgence à Tamara, une petite note anthropologique, mais après tout, c'est toi qui m'as appris, donc tu verras le résultat de tes enseignements. Je vais commencer simplement, je pense que tout le monde dans la salle sait ce que c'est que cet appareil. Non ?
Non.
Oui, c'est le premier microscope à lumière directe, tel qu'il avait été construit par un immense savant qui s'appelle Anthony van Leeuwenhoek. Ça date de 1636, et donc ça a plus de 300 ans. Et en fait, cet appareil, ce qui est le plus important, bien entendu, c'est l'objectif, c'est de la petite perle de verre tout en haut, là, à travers lequel van Leeuwenhoek observait tout ce qu'il avait envie d'observer, bien entendu, parce que c'était un monde entier qui se découvrait. Et puis tout ce matériel en dessous, ça correspond bien entendu au système de positionnement tridimensionnel de l'objet au bout de cette petite aiguille, qui pouvait être bien entendu des suspensions, infusions d'un certain nombre de substances. Et donc ce système permettait de grossir entre 50 et 200 fois, et bien entendu ça permettait, ou ça a permis de voir les microbes. Et donc, on considère en règle générale dans l'histoire de la médecine que Anthony van Leeuwenhoek est l'homme qui a découvert les microbes. Il les a découverts non seulement, mais il les a aussi décrits. Et ce que vous voyez à droite est assez intéressant, parce qu'au fond, ce qu'il a commencé par observer, il avait observé d'autres choses. C'est aussi l'homme qui, pour le premier, a vu les spermatozoïdes. On est à peu près dans les mêmes échelles de grandeur. Mais pour ce qui concerne les microbes, il prenait vraiment des infusions, des suspensions d'un peu partout, en particulier des prélèvements sur les dents ou sur les gencives, et ça correspond à des prélèvements de gencives. Et vous voyez qu'on reconnaît déjà, enfin pour ceux d'entre vous qui sont microbiologistes, des coccides, des bacilles, des spirilles. Ces longs bacilles en bas sont très probablement des clostridiales. Vous voyez spiroquettes, il y a des spiroquettes dans la bouche, bien entendu. Et puis vous voyez surtout ces petits pointillés qui correspondent en fait à la notion à l'époque du fait que la vie, c'était le mouvement. Et donc, les microbes qui bougent, ce qu'il appelait les animalicules, sont vivants. Les autres l'étaient aussi, mais bon, on ne savait pas encore à l'époque que les flagelles existaient et que les bactéries pouvaient bouger. Donc, Anthony van Leeuwenhoek était vraiment un scientifique extrêmement attentif, et en matière de description du monde microscopique, Il a été vraiment le pionnier et il était membre de la Royal Society de Londres et bombardait toutes les semaines le secrétaire de la Royal Society avec des documents qui montraient justement la richesse de ce monde microscopique. En plus, c'était un scientifique qui avait de l'humour, ça arrive, et il disait qu'on trouvait, au fait, plus d'animaux, d'animalicules vivant dans les dépôts dentaires qu'on trouve de sujets dans un royaume. Et surtout, et c'était là la note d'humour, qu'on en trouvait encore plus quand les gens ne se lavaient pas les dents. Donc voilà, Antonie van Leeuwenhoek, quelque part, est aussi le découvreur du microbiote, puisque la première préparation microbienne qu'il a analysée, ce sont les biofilms qui recouvrent la surface dentaire et éventuellement s'insinuent dans les fossettes créviculaires et plus difficile à prélever, mais tout de même, il y a des germes là-dedans qui en font partie. Donc ça pose le problème de l'homme face aux microbes, être ou ne pas être sans microbes, et c'est un peu là-dessus que va se situer la leçon. On a mis le prince Hamlet là, en réflexion devant un microbe, avec ce point essentiel, c'est que les microbes sont sur la Terre depuis 3 milliards et demi d'années. Les eucaryotes multicellulaires complexes depuis 800 millions d'années, et nous, en tant qu'Homo sapiens, des discussions à l'heure actuelle, mais disons depuis 100 000 ans. Donc les microbes nous ont précédés, et au fond, nous, en tant qu'eucaryotiques supérieurs ou eucaryotiques complexes, nous sommes adaptés à ces microbes. La question est de savoir si cette vie en commun avec les microbes a des aspects positifs, négatifs, et bien entendu, vous imaginez les conclusions de tout ça. Et je cite toujours, parce que je pense que c'est tout à fait vrai, Theodosius Dobzhansky qui disait que rien en biologie ne fait de sens excepté à la lumière de l'évolution. Et dans ce domaine, justement, de l'interface hôte-microbe, je pense qu'une manière de faire les hypothèses, une manière de se poser les questions pour ensuite tenter de les résoudre expérimentalement, et d'essayer de mettre les choses le plus souvent possible, quand bien entendu c'est possible et rationnel, dans une perspective évolutionniste. À ce compte-là, on aurait bien aimé savoir ce que Charles Darwin pensait des microbes. Il n'en pensait pas grand-chose. On dit souvent qu'il ne connaissait pas les microbes. C'est absolument faux. Il y a des articles maintenant qui en témoignent et des études d'archives qui ont montré des schémas de microbes que Charles Darwin avait fait lors de ses aventures sur la Beagle. Au fond, malheureusement, il est arrivé un petit peu trop tôt. Il est arrivé avant Pasteur, avant Robert Koch. Il est arrivé avant cette notion qu'au fond, ces microbes, certains le suspectaient, pouvaient être responsables de maladies. Et donc, la réflexion sur la coévolution microbe-homme, en l'occurrence, n'a pas été dans les œuvres de Darwin. Ce qui est quand même intéressant dans le travail de Darwin, c'est qu'il a utilisé les microbes au fond, pour montrer qu'à différents endroits de la planète, dans différents écosystèmes qu'il étudiait, qu'il prélevait, les microbes étaient différents. Ça paraît peut-être évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et surtout, comme il y avait cette obsession de cette théorie de l'évolution, et au fond, cette controverse entre les tenants de sa théorie et puis le lamarckisme, il a beaucoup pris les microbes qu'il voyait finalement pousser dans ces systèmes d'infusoires sans se modifier véritablement dans leur aspect, donc pris comme le fait que les microbes évoluaient sans se perfectionner, sans montrer d'évidence de changement de structure et d'addition de structure qui traduirait une espèce d'amélioration par l'évolution. Et donc ça a été véritablement, la ligne de d'observation et de réflexion de Darwin. Mais donc, malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup en matière de coévolution homme-microbe, mais je voulais quand même le mentionner pour, peut-être corriger une erreur souvent commise, qui est de dire que Darwin n'a pas connu les microbes. Au fond, si on commence à réfléchir sur la symbiose, le vrai pionnier, en tout cas celui qui a mis le terme de symbiose dans l'analyse scientifique, c'est un savant allemand qui s'appelait Anton de Bary. Et de Bary est l'inventeur de la mycologie, d'ailleurs. C'est lui qui a, pour la première fois, montré l'existence des champignons. Et en même temps, comme l'étaient souvent les savants du XIXe siècle, c'était quelqu'un d'assez large dans ses intérêts. C'était aussi un entomologiste. Il avait une approche aussi de réflexion sur l'évolution de ces organismes qu'il commençait à observer. Donc le terme de symbiose a été introduit en gros aux alentours de 1870, et je vous ai mis la première publication sur le sujet, alors qu'en fait il travaillait à Strasbourg, puisque je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Alsace était sous domination allemande. Donc voilà, au fond, le lien avec Pasteur. C'était un peu attendu, j'imagine. Au fond, la vraie réflexion sur ce que serait un monde sans microbes, ou ce que serait au moins l'homme ou les animaux sans microbes, si on essaye de trouver véritablement dans la littérature, clairement, Pasteur a été l'un des premiers, sinon le premier, à se poser la question sur ce sujet. Et on peut dire, au fond, qu'il est l'inventeur du concept d'accénie. On va y revenir tout de suite. Mais il y a un texte qui est publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1885 qui dit que, c'est un peu la façon dont on écrivait à l'époque, hein, bien entendu, souvent dans nos causeries du laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, c'est-à-dire matière nutritive pure, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement de microbes communs. Sans vouloir affirmer quoi que ce soit, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude si j'en avais le temps. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Avec la pensée préconçue, c'est ça le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Donc Pasteur s'était mouillé, entre guillemets, si je puis dire, et avait fait le pari que sans microbes, la vie des mammifères, c'était à ça qu'il pensait, en particulier à l'homme, était impossible. Alors vrai ou faux ? Faux ! Faux, mais on va y revenir. Je voulais juste définir les termes avant. Accénique, c'est, au fond, ça qualifie un environnement biologique qui est exempt de tout micro-organisme. Alors, on pourrait dire stérile, un peu plus prétentieux, on dit accénique, et puis c'est vraiment rentré dans les termes, parce que ça définit en particulier un animal de laboratoire qui est absolument sans micro-organismes, que ce soit des commensaux, saprophytes, ou que ce soit des pathogènes, et on peut obtenir ce type d'animaux en accouchant par césarienne une souris ou cobaye, et ensuite en l'entretenant, en l'élevant dans une enceinte stérile. Donc ça vous dit déjà quelque part que l'hypothèse de Pasteur n'était pas tout à fait vraie. Et gnotoxénique, on entend souvent, c'est un peu un terme générique, mais néanmoins ça veut dire que cet environnement dans lequel on étudie en particulier par exemple un animal est fermé, contrôlé, c'est-à-dire qu'on va travailler de A à Z avec la même population microbienne, généralement un nombre limité de microbes qu'on a introduit en fait dans un animal accénique. Donc voilà un petit peu les deux sens, enfin le sens d'accénie et le sens de gnotoxénie, et on va revoir après l'importance que ça a eu dans un certain nombre de situations. Donc faux, parce que 10 ans après l'affirmation de Pasteur, deux chercheurs en Allemagne, George Nuttall, qui était un Britannique qui vivait aux États-Unis et qui était venu travailler en Allemagne, et Hans Tierfelder, vont faire la manip que Pasteur aurait dû faire dans son laboratoire s'il avait eu le temps. C'est-à-dire qu'ils ont monté un système d'ingénierie allemande dans lequel ils ont, au fond, fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'accoucher par césarienne un cobaye et d'ensuite entretenir cet animal, de l'élever dans cet environnement sans germes. Alors, sans germes, avec les outils de diagnostic de l'époque, disons sans germes. Et alors, grande surprise, ces expériences ont montré que l'animal était vivant. Ce qui les intéressait beaucoup, c'était de savoir s'il digérait les aliments, s'il pouvait se nourrir, et effectivement, il digérait les aliments, et donc survivait. Donc ça a remis en cause la notion de l'exigence fondamentale de microbes associés à l'animal pour vivre. On verra ensuite ce qu'il en est très précisément, mais pour l'instant, disons, sur le plan qualitatif, on peut dire qu'il ne faut pas nécessairement de microbes pour vivre. Donc voilà la première, au fond, la proto-histoire, si on peut dire, de l'accénie et des questions fondamentales que Pasteur avait lancées sur quel est le rôle des microbes au-delà du pathogène, puisqu'à l'époque, encore une fois, on voyait surtout les microbes sous l'angle des pathogènes, quel rôle pouvait-il jouer dans la physiologie, voire dans la santé et dans la maladie de l'individu. Il va falloir attendre quelques années pour que les choses, je dirais, se développent. Et je pense que la personne qui a véritablement élevé ce qu'on appelle maintenant la gnotobiologie, en tout cas l'élevage d'animaux dans des conditions axéniques au rang de science et d'ingénierie, en fait, est un chercheur américain qui s'appelle James Reniers. Il était à l'Université Notre-Dame dans l'Indiana avec un ingénieur génial qui était Philip Trexler. Et ils ont véritablement monté de toutes pièces une industrie, si l'on peut dire, du développement, au fond, d'enceintes stériles qui ont permis de lancer, à la fois sur le plan de la science et de l'ingénierie, tout ce que pouvait comporter le sujet de l'axénie. Je vous ai mis là aussi la référence bibliographique. Donc on est là en 1949, hein, on est là dans la période d'immédiate après-guerre. Donc ces deux personnes, Reniers et Trexler, ont véritablement été les pionniers et ils ont bien entendu d'emblée confirmé ce qu'avaient observé Nuttall et Tierfelder, c'est-à-dire qu'une vie macroscopique pouvait exister sans une vie microscopique. C'est une autre façon, peut-être plus élégante, de le dire. Alors ça a bien sûr permis cette technologie, parce qu'au fond, au début, ça n'était que des technologies, ensuite c'est devenu véritablement une science, des développements scientifiques essentiels sur le rôle du microbiote, et on va y revenir à la fin, je vous montrerai en quelle mesure l'axénie ou la gnotobiologie reste une approche indispensable pour essayer de comprendre le rôle du microbiote, mais ça a aussi permis des développements médicaux essentiels, qui n'existaient pas à la fin des années 40. Ça a permis de mettre en place tout ce qui concerne les isolateurs pour les prématurés, par exemple, avec le filtrage de l'air, on est dans des conditions quasiment axéniques, des isolateurs pour les grands brûlés, les isolateurs ou les enceintes stériles pour les patients en aplasie médulaire après chimiothérapie, et puis, bien entendu, ces enceintes stériles pour enfin atteindre déficit immunitaire d'origine génétique, la plupart du temps, en attente d'un traitement. Alors, dans ces années-là, ou en tout cas quand on a commencé à s'intéresser à ces situations-là dans les années 60, le traitement était certainement très très limité, donc ces enfants ne pouvaient être conservés en vie que s'ils étaient dans une bulle, dans des conditions axéniques. Et au fond, quelque chose s'est cristallisé autour de ça, sur lequel on va revenir, mais si on prend une des applications, effectivement, de ces travaux et de cette ingénierie de Reniers et Trexler, on voit tout de suite ce que le mythe du bébé bulle a pu apporter à ce concept de la vie sans microbes, car on a commencé très vite à penser qu'au fond, la vie était certainement meilleure sans microbes qu'avec des microbes, pathogènes même mis de côté. Et donc ça, c'est l'histoire du petit David Vetter, qui était au fond le premier bébé bulle. Il était d'un SCID. SCID, c'est les syndromes de déficit immunitaire complexe d'origine génétique, donc des enfants qui, globalement, n'ont pas, par exemple, de cellules T, qui sont incapables de monter une réponse immunitaire et qui sont donc extraordinairement sensibles à toutes les infections. Et donc, cet enfant était né dans une famille où il y avait eu d'autres cas de SCID, qui étaient malheureusement, bien sûr, décédés. Et 20 secondes après la naissance, il est introduit dans une bulle stérile à la Reniers. Et au fond, on se paye le luxe de faire ça parce que les médecins pensaient à l'époque que ce syndrome allait s'améliorer dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Sauf qu'au bout de 2 ans, l'enfant était toujours en immunodéficit profond et qui commençait à s'ennuyer un petit peu dans sa bulle. Donc la NASA, à l'époque, a été contactée et lui a construit un scaphandre. Alors, il fallait le faire passer du scaphandre, retourner dans sa bulle le soir. Enfin, c'était un cirque invraisemblable pour ce pauvre enfant et pour sa famille, mais néanmoins, le mythe se construisait peu à peu et les journaux observaient cette situation. Ils l'ont observé pendant 12 ans. On prenait des nouvelles du petit bébé bulle qui grandissait tout doucement dans sa bulle, puis dans son scaphandre. Et on a essayé, dans les années qui ont suivi, au début des années 80, de lui faire une greffe de moelle, sa sœur étant la donneuse, et il est décédé quelques mois plus tard d'un lymphome BV, dont on ne sait pas très bien comment il avait été transmis dans tout ce cycle et ce périple. Peut-être sa sœur était porteuse de BV et c'est ça qui l'a contaminé. Donc, quoi qu'il arrive, cette application de la gnotoxénie et toute cette ingénierie qui avait été mise au point à University of Notre Dame a commencé à construire quelque chose bien visible sur le plan médical en matière d'intérêt, au fond, de bénéfice de faire vivre des individus ou des êtres humains sans microbes. Mais il y avait aussi d'autres éléments qui se sont mélangés dans tout ça. Et j'ai vraiment, en grattant un petit peu, j'ai retombé sur ce journaliste ou photojournaliste qui s'appelle Eugene Smith, qui, en fait, sa carrière n'est pas du tout à s'intéresser à des sujets scientifiques, puisque là, on est en 1949, il avait été reporter de guerre dans les unités de Marines dans le Pacifique. Mais il a entendu parler des travaux à University of Notre Dame, il a entendu parler de ces caissons sans germes, et il a voulu aller voir de lui-même ce qui se passait. Et il en a fait un reportage, un photoreportage pour Life magazine, qu'il avait appelé Life Without Germs. Encore une fois, construisant le mythe de la vie sans germes, donc qui était paru dans Life magazine en 1949 et qui avait eu un franc succès dans les lecteurs de Life magazine. Et au fond, ces photos étaient magnifiques. Ça, c'est donc un parce qu'il n'y avait pas que des enceintes stériles, il y avait des pièces stériles où on rentrait avec un scaphandre. Enfin, il y avait toute une combinaison de systèmes de gnotobiologie impressionnants. Et bien sûr, Smith avait été très impressionné par ce chercheur avec son scaphandre et son casque qui, avec ses gros gants, portait cette petite souris. Il y a beaucoup de mise en scène, bien entendu, mais l'impact des photos était tout à fait impressionnant. Là, on voit un technicien qui sort un singe, un jeune singe de cette enceinte stérile, pour essayer de voir, ça c'est la science qui commence, ce qu'allait pouvoir être sa vie maintenant qu'il était sorti d'un environnement stérile et qu'il était en prise au monde extérieur, et en particulier aux microbes du monde extérieur. Et puis il y a d'autres photos, là, il y a ce petit chat, il y a toujours cette image de l'animal qui attirait bien entendu l'intérêt des lecteurs, où au fond, là aussi, essayer de voir à la fois si cet animal allait développer des infections ou comment allait-il se sortir de cet environnement axénique et vivre dans un environnement normal, mais aussi ce qui les intéressait là et qu'ils ont beaucoup fait, même si les résultats ne sont pas toujours très clairs, c'est de se poser la question sur des animaux à vie courte, comme les souris par exemple, est-ce que de vivre sans germes, ça augmente la durée de vie ou est-ce que ça réduit la durée de vie? Est-ce que ça augmente la survenue de maladie? Est-ce que ça diminue la survenue de maladie? Et là, on a un petit peu tout et son contraire. Et au fond, toutes ces études ont été ou vont être reprises actuellement avec l'intérêt, bien entendu, qui s'est développé ces dernières années pour le microbiote. Donc, il s'est vraiment assez rapidement construit, surtout, je dirais, dans les pays anglo-saxons qui ont cette capacité de fiction scientifique, si on peut dire, quelque part, construire encore une fois un mythe autour de l'axénie, de la gnotoxénie, et j'ai marqué au fond de la biologie à l'utopie, l'utopie étant le rêve d'un homme sans microbes, et on peut imaginer ce que ce serait, mais à l'époque, il y avait ce rêve. Et je pense que les photos de Smith ont eu un impact, parce que, au fond, de la manière dont il avait mis en scène la photographie de ces éléments techniques et scientifiques étaient empreintes d'esthétisme, de modernité, d'une certaine pureté, bien entendu, ça explorait les mystères dans la relation entre l'homme, les animaux, les microbes. Et puis on y voyait aussi quand même quelque part, en tout cas moi j'y ai vu, une certaine anxiété et peut-être une ouverture sur un monde inconnu et qui moi, très rapidement, au fond, à l'époque où on était, là c'était encore l'époque d'avant les vols habités dans l'espace, mais qui quelque part, déjà voyant ce petit singe qui sort de son enceinte, on voit tout de suite les singes sortant des capsules spatiales, et puis bien entendu tous ces casques, tous ces scaphandres nous rappellent beaucoup ce que vont être les équipements des astronautes. Et au fond, quelque part, c'est un peu le Stanley Kubrick de la microbiologie, si je puis dire, dans 2001 Odyssée de l'espace. Mais au fond, cette notion d'axénie, cette notion d'absence de germes, et c'est pour ça que je faisais la transition avec la problématique de la conquête spatiale, et c'est pour ça que j'ai parlé de la biologie à la médecine, à l'utopie et à l'exobiologie, c'est que dès que les USA ont commencé véritablement, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des Russes, franchement, je n'ai pas été voir sur le plan de la littérature ce qu'ils pensaient des microbes, je me suis plutôt axé sur ce que je sais et ce que j'ai lu du côté des États-Unis. Et donc, dès que les USA ont commencé à envisager leurs programmes spatiaux habités, il y a bien entendu un certain nombre de conseillers de la NASA pour ça, et il y avait en particulier le docteur Charles Phillips qui travaillait, qui était au Walter Reed Army Institute of Research à Washington, et qui suggérait que en fait, l'exploration de l'espace nécessitait des hommes axéniques. Et pour lui, c'était facile. All we have to do is keep a man in a germ-free cabinet for some 25 years following birth, meanwhile teaching him how to fly a spacecraft. Il faut être américain pour pouvoir dire des choses comme ça. Moi, je suis assez admiratif. Et j'en parle avec d'autant plus de décontraction que je l'ai connu, Phillips, puisque j'ai fait mon postdoc au Walter Reed dans les années 80. Et c'était l'époque où la première navette spatiale Discovery était partie. Et notre rêve avec mon copain Larry Hell dans le labo, on travaillait à l'époque sur le mécanisme d'invasion des cellules par les microbes, c'était de voir si on pouvait, en travaillant en apesanteur, bon, le secret c'était d'aller dans la navette spatiale, mais malheureusement, ça ne se fera jamais, si les microbes rentraient différemment, plus rapidement, moins efficacement en apesanteur. Et donc, on avait prévu tout un protocole de manip avec Larry pour étudier ça dans la navette spatiale ou le faire étudier dans la navette spatiale. Et donc, on avait pris rendez-vous avec Charles Phillips et il nous avait regardé avec un air absolument incroyable et il nous avait dit « No bugs in space ». Pas de microbes dans l'espace. Terminé. En fait, la conversation a été très, très brève. Et ça, c'était intéressant parce que, quelque part, ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'on ne contamine pas l'espace avec nos microbes. Inversement, bien entendu, il y a eu, quelque part, ça se rejoint, toute cette série de Michael Crichton pendant une bonne dizaine d'années, qui s'appelait la bactérie Andromède, qui était l'histoire d'un microbe épouvantable qui avait été ramené par des astronautes sur la Terre. Et au fond, ça donnait très rapidement, avec ces cellules d'isolement sans germes, c'était un peu les P4 de maintenant, une espèce de dimension salvatrice au développement de cellules sans germes pour permettre de protéger les êtres humains contre ces horribles microbes qui pouvaient venir de l'espace. Donc, au fond, dans les deux cas, on avait une espèce d'attitude salvatrice aux dépens, bien entendu, des microbes. Et quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, qui est Josh Lederberg, immense savant et grand microbiologiste, et d'autres exobiologistes, en fait, il avait été pris comme expert par la NASA pour la microbiologie, en fait, insistait effectivement sur le fait que la Terre, à cette période de démarrage de la conquête spatiale, il y avait eu bien sûr l'homme sur la Lune, mais on commençait déjà à parler de Mars dans les années 80-90, la Terre était un écosystème fermé et qui devait le rester, c'est-à-dire qu'on ne devait pas emporter dans l'espace des choses qui ne devaient pas y être, et en particulier, bien entendu, des microbes. Et toutes ces directives ont été appliquées relativement à la lettre par la NASA. Et donc la NASA a une cellule de réflexion et d'action, bien entendu, sur la préservation de l'Agence européenne de l'espace, là aussi, bien sûr, maintenant, de préservation des planètes contre la contamination par ces méchants microbes que l'homme va apporter. Alors, il y a effectivement cette dame, je ne pense plus qu'elle soit en fonction à l'heure actuelle, qui est Catherine Conley, qui a, je trouve que le nom de son job est formidable, NASA Planetary Protection Officer, vous imaginez un petit peu le job, et qui effectivement insiste sur le fait que si la vie sur Mars n'était représentée que par des microbes, c'est pas une bonne chose de commencer nos explorations sur Mars en y apportant des microbes de la Terre. Et je pense qu'il y a une vision là qui est à la fois, bien entendu, écologique, scientifique, mais aussi humaniste, tout à fait intéressante, et disant dans le New York Times que l'objectif n'est pas de protéger la Terre des aliens, contrairement à Michael Crichton et à la bactérie Andromède, mais de protéger les autres planètes des terriens. Au moins, elle le disait. Le risque majeur de transmission, au fond, ce n'est pas tellement les bactéries, ça l'est sans doute, c'est plutôt les lichens qui sont extrêmement résistants aux radiations en particulier et qui peuvent peut-être supporter un voyage de la Terre à Mars. Et puis peut-être aussi les bactéries, en particulier des spores bactériennes. On considère que Curiosity, qui était le petit véhicule spatial qui a débarqué sur Mars il y a quelques années, transportait peut-être l'équivalent de 20 à 40 000 bactéries sous forme de spores résistantes à tous les rayons qu'ils ont pu subir dans l'espace entre la Terre et la planète Mars. Donc, on ne sait pas encore très bien ce qu'il en sera, mais il y a une vraie, dans cet ensemble d'éléments sur l'Axénie, une vraie direction là qui je pensais était intéressante, et qu'il était intéressant d'essayer de joindre un petit peu et de trouver un petit peu aussi le fil conducteur, la marche qui avait amené à cette réflexion pour en arriver même à l'exobiologie dans le cadre de la conquête spatiale. Si on prend un tout petit peu de recul, en fait, qu'on revient aux années d'après-guerre, on comprend aussi le fait que les germes n'avaient pas bonne presse, au fond, car on était encore, à cette époque-là, au début de l'antibiothérapie, au début, en tout cas pour un certain nombre de maladies, de la vaccination, et comme le disait Sir MacFarlane Burnet, un grand scientifique, immunologiste, prix Nobel, l'élimination virtuelle des maladies infectieuses comme facteur essentiel de la vie de la société, c'était son terme. Effectivement, il anticipait ça, mais au passage, ça renforçait l'idée qu'il fallait effectivement avoir un regard probablement relativement négatif sur les micro-organismes. Donc, au fond, dans cette période, on a à la fois encore la crainte des pathogènes, on commence à voir les bénéfices éventuels de l'Axénie, donc on commence à imaginer un monde sans microbes, on commence à rêver, à fantasmer un monde sans microbes, sans véritablement se poser de questions sur ce que serait la réalité de la vie sans microbes. Mais on préfère, parce que ça fait bien, parce que les journaux, parce que tout le monde insiste là-dessus, les reportages de Smith et compagnie, on prend l'option, c'est bien probablement, ou c'est mieux de vivre sans microbes. Et ça va engendrer des aspects importants en termes des individus, en termes d'élevage, probablement une partie de ce qui justifie cet usage des antibiotiques qu'on a dit, l'argamanu dans l'élevage, dans beaucoup de régions du monde maintenant, est lié à cette croyance que c'est plutôt bien de débarrasser les animaux d'élevage de leurs microbes. Et d'ailleurs, ça marche, puisque, regardez, ils croissent et font plus de viande plus rapidement que d'autres. Donc, il y avait tout un, au fond, probablement, enfin, pour ce qui me concerne, une mauvaise conception de tout ça. Mais donc, beaucoup de littérature, à la fois scientifique et de grand public, disons, va insister sur Life in a Germ-Free World, Isolating Lab from the Laboratory Animal, et toute cette, encore une fois, mythologie qui s'est construite, en particulier autour des bébés bulles. Donc les travaux de Rainier ont alimenté, au fond, ont contribué quelque part à cette mythe de l'homme pur, sans microbes. Mais dans les années 50-60, on a vu aussi, comme vous le savez sans doute, se développer un courant très puissant sur l'eugénisme. Et très très rapidement, les deux ont fusionné. C'est-à-dire que l'homme de demain, c'était même certaines caricatures, ou même plus que des caricatures, des espèces d'anticipations. On considérait que l'homme de demain serait un homme pur génétiquement et pur de tout microbe. Ça commençait à déraper sérieusement. Et il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, et en particulier devant les médias américains. Il y a eu une interview intéressante entre Josh Leiberberg, encore une fois, et Hilary Koprowski. Hilary Koprowski, c'était un grand virologue, c'est l'homme qui a fait le premier vaccin contre la polio. Et au fond, Josh Leiberberg était toujours dans son idée, au fond, que l'existence d'un homme axénique pouvait avoir du sens et était une hypothèse, comme il disait, une hypothèse crédible pour le futur. Monde sans germes, je ne sais pas, il a utilisé le terme, je pense qu'il pensait uniquement à l'homme parce que ce serait difficile d'imaginer un monde sans germes par ailleurs, mais bon, voilà. Et Hilary Koprowski, qui était un médecin et donc un virologue, savait que l'idée d'un monde sans microbes, travailler sur les virus, mais tout autant pour les bactéries, n'avait pas trop de sens, et il faisait cette comparaison en disant au fond que on vit sur une ligne de front, avec des victoires, avec des défaites. On était plutôt, à cette époque, dans une période de victoire, avec les antibiotiques, avec les vaccins. La ligne a ses faiblesses, hein, on l'a dit dans les leçons précédentes, mais néanmoins, c'était le cas. Et donc, on pouvait voir une espèce de stabilisation du front et sans doute, dans l'esprit de Koprowski, commencer à voir émerger le bon côté des microbes. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette discussion entre les deux avait été modérée par Julian Huxley, qui est anglais, et qui concluait, et je vais revenir tout de suite sur lui parce que c'est intéressant, qui concluait de ce débat: « A germ-free world is an ecological absurdity, just as perpetual motion machines is a mechanism of absurdity, or is a mechanical absurdity. It is just nonsense to talk about eradication. » So, son attitude était relativement claire et probablement allait un peu plus dans le sens de Koprowski. Alors, ce Julian Huxley est intéressant parce que c'était un eugéniste de première, et surtout, il était dans la suite des travaux de Teilhard de Chardin, qui, vous savez, le père du concept du transhumanisme, c'est-à-dire de ce concept que l'homme est loin d'avoir donné toutes ses capacités, la mesure de toutes ses capacités, et qu'on peut imaginer que l'homme individuel et l'homme collectif, la société, peuvent trouver des moyens, des mécanismes d'améliorer leur performance pour le bien de l'individu et pour le bien de l'humanité. Alors bon, il y avait bien sûr autour de ça des choses qu'on peut discuter et discuter même très sévèrement, mais néanmoins c'était un concept qui commençait à prendre du corps dans les années 50-60, et Huxley était clairement dans cette controverse entre Koprowski et Leiberberg sur le fait que, et peut-être le vent était en train de tourner, les microbes pouvaient sans doute être une bonne chose, et peut-être ces microbes qui nous habitent, ces microbiotes, pouvaient être cet élément de transhumanisme qui allait nous renforcer, et la suite a montré dans une certaine mesure que ces microbes, effectivement, par le biais de l'évolution et pas par décision aujourd'hui d'essayer d'améliorer les choses, que ce système était probablement dans une certaine mesure valide. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? Après toute cette bulle, c'est le cas de le dire, sur la pureté microbienne de l'homme et les avantages qu'elle aurait dans des tas de circonstances différentes, et cette notion éventuellement de nécessité d'éradiquer les microbes. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Au fond, Reinius avait observé des tas de choses qui ont été très vite oubliées, ou délibérément ou non délibérément oubliées. C'est que les animaux axéniques mouraient précocement, et qui mouraient précocement en particulier par déficit alimentaire et par déficit d'apport donc, de vitamines, donc par déficit d'apport calorique et par déficit d'apport de vitamines, et qu'au fond, on commençait à réaliser que ces vitamines en particulier étaient produites par les bactéries. C'est le cas de la vitamine A, de la vitamine B12, de la vitamine K, de l'acide folique, bien entendu. Et donc, ils avaient observé, mais au fond, on n'y avait pas fait autant attention que ça, qu'il fallait, et ça a été confirmé, et c'est encore le cas aujourd'hui, bien entendu, dans les enceintes axéniques, il fallait enrichir l'alimentation des animaux d'expérience, des souris en particulier, de facteurs de 30 à 50% de façon à les faire survivre et croître dans des conditions satisfaisantes, et bien entendu leur apporter des suppléments de micronutriments et de vitamines. Donc, sans cette compensation alimentaire, bien entendu, les animaux avaient une vie relativement plus courte. Avec cette complémentation alimentaire, les animaux, dans une certaine mesure, pouvaient vivre plus longtemps que des animaux qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire des animaux avec une flore microbienne, mais encore une fois, les publications ne sont pas toujours en accord. Mais néanmoins, ce que ces études montraient, en règle générale, c'est que ces animaux, en l'absence de flore microbienne, en particulier de flore microbienne intestinale, avaient une physiologie et un métabolisme altérés. Quand on incise l'abdomen de souris axéniques, on voit très bien que leur intestin, par exemple, est extrêmement fragile, la paroi est très fine. Ils ont une immaturité de la vascularisation intestinale. Il y a une diminution massive de la production, en particulier de facteurs angiogéniques. Ils ont une impossibilité de dégrader les mucines, parce que les mucines sont des protéines qui sont très très riches en d'éléments branchés de sucre complexe, et que ce sont les bactéries, au fond, qui font on l'a déjà dit, cette hydrolyse et cette fermentation, en fait, de ces sucres complexes, dont elles ont des cécums absolument monstrueux, qui parfois même donnent des complications à type d'occlusion intestinale, et les animaux décèdent. Donc, ce n'est pas véritablement une bonne chose de ne pas avoir de microbes dans son intestin, et probablement ailleurs. Par ailleurs, leur système immunitaire est atrophique, c'est-à-dire que l'enfant qui naît, le petit animal qui naît, a un système immunitaire qui est en devenir, mais qui nécessite les microbes et un certain nombre de facteurs microbiens, ce qu'on appelle les PAMPS en général, pour développer à la fois leur immunité muqueuse et leur immunité systémique. Ces animaux ont une rate qui est toute petite, n'ont pas de ganglions, n'ont pas de plaques de Peyer, ces structures lymphoïdes associées à la muqueuse intestinale. Donc c'est le premier contact avec le microbiote qui va commencer ce programme de maturation du système immunitaire de ces jeunes. Et puis leur système nerveux périphérique fonctionne mal. C'est une des explications aussi de cet intestin un petit peu bizarroïde que je vous ai raconté, mais aussi le système nerveux central. Ces microbes, j'ai dit que ces animaux étaient carencés en facteurs d'angiogénèse, ont du mal à développer et à maturer leur barrière hématoencéphalique, donc ils ont un cerveau qui est menacé, au fond, par cette absence de barrière hématoencéphalique. Et ils ont, comme l'a montré très bien mon ami Sven Peterson il y a quelques années, des troubles du comportement, en particulier les souris sans germe, axéniques, nées de mère axénique, ont un comportement anormal, elles sont hyperactives, elles n'ont pas peur, elles n'ont pas véritablement de stress, en tout cas la partie salutaire du stress. Donc on voit bien que tout ça n'est pas, au fond, antagoniste de la vie, Les organes sont là, même s'ils sont plus petits, atrophiques, mais ils sont là, l'animal est là, il vit. Mais on a toute, à la périphérie, une zone de retard de développement qui, bien entendu, permet de délimiter ce qu'est la symbiose avec ces microbes. Et donc, on rentre là peu à peu dans une espèce de changement de paradigme et on se met à regarder l'axénie comme un élément, je dirais, plutôt négatif pour l'avenir de l'homme que ce que l'on pouvait penser antérieurement. Donc, il y a eu véritablement une transition. Là, je montre toujours cette photo parce que je la trouve impressionnante. Vous regardez juste le bas, à gauche, donc c'est une villosité intestinale. Le rouge, c'est le dapi des noyaux des cellules épithéliales. Et le vert, c'est un anticorps anti-von Willebrand qui marque les capillaires, du réseau capillaire de la villosité. Et vous voyez que c'est complètement atrophique chez un animal axénique, alors qu'à droite, c'est largement développé et ça explique en particulier un certain nombre de troubles physiologiques comme, au fond, l'accès des cellules immunitaires, l'absorption des nutriments et ainsi de suite, parce que le réseau lymphatique est lui aussi altéré. Donc, on a maintenant des évidences, des aspects négatifs de la vie sans les microbes. Alors, on commence à faire la liste, je vous l'ai mise, je pense que j'ai déjà montré cette diapositive antérieurement, sur les influences bénéfiques pour l'homme, pour l'animal, de cette colonisation, de ce microbiote, en particulier intestinal. C'est une barrière contre les intrus, contre les pathogènes en particulier. Il y a un effet de barrière à la colonisation qui est massif, et c'est peut-être une des fonctions les plus importantes de ce microbiote. Il y a des aspects de maturation, on en a parlé, système immunitaire, système nerveux, hématopoïèse. Et puis, il y a des aspects nutritionnels, à la fois de maturation du système d'absorption, digestion des nutriments, mais aussi le microbiote fournissant lui-même des calories, en particulier par le biais de la fermentation des sucres, qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, donc la production d'acides gras à chaîne légère, de butyrate par exemple, qui représente une ration calorique. La moitié de la ration calorique des cellules du côlon, par exemple, est produite par le microbiote, par les clostridiales du microbiote. Et puis, bien entendu, la production de vitamines, même si elle reste dans des limites. Et ça, c'est important parce que c'est un peu ce qui a émergé de l'époque récente de métagénome et d'analyse globale du microbiote intestinal, c'est cette notion qu'on peut très vite passer de possiblement la santé à la maladie par une altération de ce microbiote, par la survenue d'une dysbiose, puisque le système étant tellement dépendant d'un certain nombre d'influences microbiennes, si ces influences microbiennes sont perturbées, on va avoir ou donner lieu éventuellement à un certain nombre de pathologies. Et on voit de plus en plus de ces pathologies dites postmodernes associées au développement de dysbiose. Donc c'est un peu une nouvelle page aussi de la médecine qui s'ouvre là en matière de bons aspects des microbes, mais aussi du fait que ça ne marche que parce que c'est une collectivité, encore une fois rodée par la coévolution, et que si cette collectivité est altérée dans ses grands équilibres, elle peut donner lieu à des pathologies, et on en redira un mot très très rapidement. Alors, au fond, on a parlé un peu de cette notion de l'importance des microbes et pour la, au fond, la physiologie, la santé de l'homme et éventuellement, bien sûr, des animaux. Et très vite, c'est sûr que, bon, il y a la science et puis il y a aussi la réflexion, il y a l'épistémologie, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et au fond, ce chercheur israélien, par exemple, qui est Eugene Rosenberg, a été un des promoteurs assez tôt, ces 20 dernières années, en fait, de cette notion de l'homme et de son microbiote qui ne font qu'un. C'est-à-dire, au fond, que l'homme et le microbiote font ce qu'on appelle un holobiote ou un hologénome, ce que lui a appelé un super-organisme. Quelque part, on flirte là encore avec cette notion de transhumanisme, c'est-à-dire le fait que des influences extérieures peuvent améliorer éventuellement la santé et les performances humaines. Et c'est vrai, c'est vraiment sur cette ligne que campe Rosenberg. Mais C'est important quand même d'y réfléchir. De la même façon, par exemple, dans les années en 2003 ou 2004, Stanley Falco, dont je vous ai déjà parlé antérieurement, avait publié une revue qui posait le problème de... C'était à l'époque où on venait d'avoir le premier séquence du génome humain, et le thème de cette revue, c'était « Il n'y aura pas véritablement de génome humain complet tant qu'on n'aura pas séquencé le génome des microbes qui font partie intrinsèque de cet hologénome ou de cet holobionte. » Alors, facile à dire, c'est plus difficile à faire dans la mesure où, comme vous le savez, les microbiotes sont extrêmement divers en fonction d'influences environnementales, en particulier la nutrition, le type de nutrition, éventuellement de prise de médicaments et puis de l'expérience individuelle de son exposition à son environnement. Donc on est dans quelque chose qui reste encore un petit peu complexe à définir, mais la métagénomique, en nous donnant un coup de projecteur, non pas sur la nature des espèces microbiennes, dans un premier temps, qui sont présentes dans cet écosystème, mais sur l'arsenal biologique que représentent ces micro-organismes, permet éventuellement de commencer à définir un cœur de la machinerie qui est indispensable à la symbiose, et c'est vers ça que s'oriente actuellement une bonne partie des recherches. Donc on est dans un système où, au fond, et là on en revient à Darwin, et on aurait bien aimé avoir son avis sur le sujet, la pression sélective qui donne lieu à la sélection et donc qui est l'élément moteur de l'évolution, est-ce qu'elle porte d'un côté sur l'homme, l'animal, et de l'autre côté sur sa population microbienne, ou est-ce que, comme le voudrait Rosenberg en particulier, la pression sélective affecte l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire les deux en même temps, et que c'est en coévolution que les choses vont se décliner. Et ça, c'est vraiment une discussion qui paraît peut-être un petit peu sortie de contexte, mais je pense que c'est un élément très important parce que ça peut, dans une certaine mesure, influencer la façon dont on fait et dont on dessine nos expériences pour travailler sur le microbiote. Alors, au fond, après toute cette période de rêves, de mythes, de fantasmes sur l'homme pur sans microbes, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ben, il n'en reste pas énormément de choses, il en reste des mots, et il en reste quand même, dans une certaine mesure, un mode de vie. Alors, les mots, ils sont très beaux, il y a misophobie, c'est la peur générale des contaminants, des microbes, il y a la germophobie, il y a la germaphobie, il y a la verminophobie, il y a la bacillophobie. Donc tout ça, ça traduit font des sentiments négatifs, bien entendu, qui ont été entretenus dans cette période d'après-guerre par rapport, encore une fois, à l'intérêt qu'il y aurait à être pur et sans germe. Germophobie, ça reste un trait de caractère, ça reste un TOC. On le retrouve souvent, des gens qui se lavent les mains 36 fois dans la journée ou qui sont très à cheval sur, bien sûr, le principe de l'hygiène. Ce n'est pas un pasteurien qui va remettre en cause l'hygiène, mais l'excès en tout est sans doute nuisible. Et on va voir que peut-être, effectivement, l'excès en hygiène peut avoir des aspects relativement nuisibles. Mais au-delà de cette dimension un petit peu névrotique, finalement, ça reste des TOC sympathiques et, au fond, ça entretient aussi le business des antiseptiques pour la main et autres. Je ne parle pas du milieu hospitalier, je parle de la vie de tous les jours. On voit aussi des différences culturelles dans le respect éventuellement des microbes, même au sein de l'Europe. Par exemple, en France, on voit beaucoup cette obsession du nettoyage de la peau, des fesses des bébés avec des antiseptiques, alors que les mamans allemandes ont une vision beaucoup plus, entre guillemets, écologique de la situation. Donc il y a des traces de cette notion d'hygiène dans notre perception des microbes, en tout cas, qui est sans doute importante. Et puis surtout, au fond, cette germophobie, elle a été accaparée dans les années 60, au milieu du boom économique de l'après-guerre, par le consumérisme. Et on a vu apparaître, et vous en avez vu et vous en voyez encore dans les journaux, ces ustensiles, ces appareils, ces systèmes, ces produits qui vont vous détruire 99,99% des germes de votre environnement sans se poser une seconde la question de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. de massacrer tous ces germes avec l'ensemble de ces dispositifs. Mais encore une fois, la publicité ne va pas s'arrêter. Moi, j'aime bien surtout celle du haut à gauche, parce que quand ça devient religieux, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors, au fond, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le risque pour l'humanité, avec les progrès de la médecine, avec les antibiotiques, avec les vaccins, avec l'hygiène, bien entendu, de l'eau, des aliments, le risque pour l'humanité, il s'est un petit peu déplacé, en tout cas dans les régions riches, nanties, et que le risque auquel on est en train de commencer à faire face, c'est plutôt le risque de l'appauvrissement du microbiote, à la fois en richesse et en diversité d'espèces, donc de gènes, donc de fonctions nécessaires, essentielles à ces fonctions symbiotiques entre les eucaryotes et les prokaryotes. Et les conséquences, telles peut commencer à les voir, à les analyser, c'est la survenue, on en a déjà parlé, de ces maladies dites postmodernes, a priori non transmissibles, non communicables, comme dit l'OMS, qui évoluent sous forme d'épidémie. Et on parle là, par exemple, de l'asthme, de l'obésité et de tout ce type de maladies. Et en fait, en 2002, un immunologiste français, Jean-François Bach, avait publié dans le New England Journal of Medicine un article, mais que tout le monde, commencé par moi, ressort sous forme de ces deux tableaux mis côte à côte. Le tableau de gauche montrait l'effondrement, en tout cas la diminution constante et extrêmement solide de l'incidence des maladies infectieuses en général, encore une fois, par le biais de ce que vous savez, y compris, bien sûr, l'hygiène et les vaccins. Et puis, de l'autre côté, de façon en miroir, en fait, l'augmentation, avec quasiment la même rapidité exponentielle, d'un certain nombre de ces maladies dites postmodernes. On parle là de maladies inflammatoires d'intestin, de maladies de Crohn, on parle d'asthme, on parle d'atopie, on parle de sclérose en plaques, on parle de cancer, en particulier de cancer du côlon. Toutes ces maladies, d'ailleurs, qu'on voit très très bien à l'heure actuelle, quand on mesure l'incidence, apparaître dans les pays en cours d'émergence économique. Ça devient presque des laboratoires, je dirais, entre guillemets, pour étudier justement, au fond, la physiopathologie de ces maladies postmodernes. Et si on reste strictement corrélatif, et c'est là qu'est le cœur du sujet, on va tout de suite, bien entendu, considérer que la probable perte en richesse microbienne va être responsable de la survenue de ces nouvelles maladies épidémiques post-modernes. Et donc, est-ce qu'on peut commencer à rationaliser une notion qui serait la notion d'appauvrissement global ou local, individuel, de notre environnement microbien. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans une leçon précédente, qui est cette notion de surconsommation d'antibiotiques, non seulement dans les hôpitaux et en médecine vétérinaire, qu'on essaye de contrôler et qu'on réussit à contrôler dans une certaine mesure, mais le fait que les antibiotiques sont sortis de l'environnement hospitalier et sont maintenant dans l'environnement tout court, dans la mesure où ils sont utilisés très largement par l'agriculture, par l'élevage en particulier, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et comme je vous le disais dans une précédente leçon, on considère que chaque année, environ 300 000 tonnes d'antibiotiques sont libérées dans l'environnement, non dégradées pour la plupart, et que ça introduit bien entendu un changement considérable et qu'il faut absolument maintenant étudier dans les écosystèmes microbiens, y compris terrestres et océaniques, au-delà même des écosystèmes humains et animaux qui étaient plutôt jusqu'à présent dans le collimateur. Donc on est vraiment dans une situation où, comme je le disais de façon un peu provocante, les antibiotiques qui sont une drogue miracle, « magic bullet », comme l'avait appelé Ehrlich au début du XXe siècle, sont devenus des polluants environnementaux, et donc c'est encore un effet parmi d'autres, de l'anthropocène et de l'impact des comportements humains, bien entendu, sur la nature en général. Mais ce qui est très intéressant, c'est un article qui est sorti dans Nature, non pas l'année dernière, maintenant c'était en 2018, d'un chercheur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nassos Tipas, qui travaille le MBL, le laboratoire de biologie moléculaire à Heidelberg, en Allemagne. Et donc, il est un des rares microbiologistes, d'ailleurs, à l'EMBL. Et bon, il a toujours été passionné, je connais depuis qu'il a commencé quasiment son travail, il a toujours été passionné par ces big data et high throughput approach. Et il a commencé un vrai travail de fond de biologie systémique et plus récemment, au fond, de mettre un regard un petit peu nouveau sur l'écologie du microbiote intestinal sous l'angle de l'effet des thérapeutiques, au-delà des antibiotiques. Et ce qu'il montre dans ce papier de Nature, c'est que environ un quart des médicaments du quotidien, en dehors des antibiotiques, ont des effets antimicrobiens. Donc on voit là d'un seul coup l'ensemble de la pharmacologie, antibiotiques et médicaments d'autres natures, en particulier tout ce qui est médicaments psychotropes, ont des effets antimicrobiens qui sont d'une efficacité parfois aussi importante que certains antibiotiques. Donc on a peu à peu, morceau par morceau, un schéma qui se construit justement du fait que notre monde microbien, le nôtre, et puis éventuellement celui qu'on engage soit en utilisant par exemple les antibiotiques dans l'environnement, soit en enrichissant notre environnement microbien avec nos propres microbes, on altère nos microbiotes et bien entendu on les réduit en diversité et en richesse, ce qui est un processus général en écologie, la diversité est un élément fondamental pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais qui commencent à se concrétiser à l'heure actuelle. On voit, tout en restant toujours dans le corrélatif, que beaucoup de maladies sont associées à un appauvrissement du microbiote intestinal, encore une fois, en particulier en diversité microbienne. Et vous avez la liste ici, on pourrait l'allonger encore aujourd'hui. Et je vous mets ici cette étude que j'aime beaucoup, qui a été faite, publiée en 2012 par un groupe américain dans Nature. Où, en fait, ils ont étudié le microbiote intestinal. C'est cette histoire de, au fond, c'est bien, vous prêchez, les antibiotiques, il faut faire attention, tout ça, la résistance. Maintenant, on se pose la question des antibiotiques, non seulement dans la résistance, mais dans l'impact sur la diversité microbienne. Est-ce que véritablement, ça se voit, est-ce qu'on l'a sous le nez, y compris chez des sujets en bonne santé. Et ce que cette étude a montré, ils ont étudié trois populations. Ils ont étudié des populations d'Amérique du Nord, en particulier des jeunes enfants. Ils ont étudié des populations du Malawi et des populations amérindiennes d'Amazonie qui, a priori, n'ont eu aucun contact avec la modernité, donc aucun contact avec les antibiotiques. Et ce que cette étude montre clairement, c'est qu'en particulier chez les jeunes enfants, dans les deux premières années de la vie, la diversité en espèces microbiennes, ça a été fait avec la méthode CESS, est divisée par deux quand on compare les enfants américains et les enfants amérindiens. Donc cette réduction de la diversité microbienne, elle est sous nos yeux, elle est en train de se mettre en place et sans doute, je veux dire, elle ne peut pas ne pas être responsable de quelque chose dans la mesure où la coévolution avec les microbes, elle est l'effet de millénaires de mise en place et cette altération brutale actuelle par la combinaison des facteurs dont on a parlé est sûrement un élément important à prendre en considération dans la survenue d'un certain nombre de maladies. Ça l'aide d'autant plus que les travaux qui sont faits à l'heure actuelle tendent à montrer que c'est surtout dans les premières années de la vie que se jouent les choses. Ces fameux 1000 premiers jours entre la conception et le deuxième anniversaire de l'enfant. Alors, la période fœtale, on ne sait pas encore très bien ce que le microbiote de la mère peut impacter sur le développement, ce qu'on appelle le fine-tuning en anglais du fœtus. Mais on sait très bien qu'après la naissance, et maintenant c'est non seulement démontré épidémiologiquement, mais c'est prouvé expérimentalement, la réduction de la diversité microbienne va donner lieu à une augmentation du risque de certaines maladies postmodernes plus tard dans la vie de l'enfant, en particulier l'obésité et l'asthme. Et on sait maintenant qu'un enfant né de césarienne, par exemple, a 25% de plus de risque de développer soit une bronchite asthmatiforme, soit un asthme qu'un enfant accouché par les voies naturelles. Et on sait aussi maintenant qu'un enfant traité de façon très prolongée, pour des raisons tout à fait justifiées, bien entendu, par les antibiotiques dans les deux premières années de la vie, a un risque augmenté, les chiffres dans les études, l'étude était de 22%, mais c'est confirmé avec des variations faibles autour de ce chiffre, de développer une obésité au stade, disons, de l'adolescence. Donc, c'est pas... Il faut utiliser les antibiotiques quand les enfants sont malades. Hein. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais il faut qu'on sache qu'il y a un prix à tout, qu'il faut optimiser les antibiotiques et la façon dont on les utilise et le spectre de microbes qu'on touche. Parce que plus on va toucher d'espèces microbiennes parce qu'on utilise des antibiotiques à très large spectre, plus on va réduire cette diversité et prendre le risque justement de ces situations postmoderne. Ça a été démontré chez la souris. C'est le travail du groupe de Martin Blaser, qui est d'ailleurs... Son bouquin n'a pas été traduit en français, mais pour ceux qui veulent le lire en anglais, je ne fais pas de publicité pour mon copain Martin Blaser, mais ça a été un livre vraiment très pionnier qui s'appelle Missing Microbes et qui, véritablement, a été un des premiers à mettre le doigt ou plutôt à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que notre environnement microbien se dégradait en richesse et en diversité, et ils ont montré que les souris qui étaient traitées pendant quelques semaines, les souriceaux, par un antibiotique ou une combinaison d'antibiotiques avaient plus de risques de développer une augmentation de leur masse graisseuse avec le temps. Donc tout ça permet d'insister sur le fait que, bien sûr, on peut dire jusqu'à présent c'était de la corrélation. On a vu les courbes d'incidence de Jean-François Bach, mais peu à peu, par le biais de l'expérience, on s'aperçoit que ce n'est pas que de la corrélation. Les postulats de corps commencent à pouvoir être appliqués avec, au fond, la reproduction de la maladie par ces combinaisons de microbes ou ce qu'on ne fait de microbiote en altérant la combinaison de ces microbes. Et on a de plus en plus, et ça remet au fond quelque part la souris axénique en scène, puisque une des façons maintenant les plus, je dirais, rigoureuses et presque routinières de poser ces questions, c'est de prendre des souris axéniques, jump free comme on dit en anglais, et puis de leur transplanter une flore d'un sujet malade, d'un humain malade. Et un certain nombre d'expériences montrent maintenant qu'effectivement, la flore de sujet intestinal de sujet obèse, c'était déjà connu dans les manips souris-souris, est susceptible d'induire une augmentation de la résistance à l'insuline et donc de mettre sur le chemin de l'obésité ces animaux. Il y a une augmentation aussi, bien sûr, de l'adiposité. Même chose avec les selles de troisième trimestre de grossesse, puisque le troisième trimestre de grossesse est souvent marqué par une augmentation de la masse graisseuse. Le résultat est observé aussi chez la souris dans les modèles expérimentaux. Même chose dans la malnutrition, même chose dans l'asthme. Mon ami Brett Finlay, que vous avez sans doute vu, ceux qui ont assisté au symposium qu'on a organisé au fil des années sur le microbiote, a fait un travail formidable, surtout sur une cohorte au Canada qui s'appelle Child, où ils ont montré qu'au fond, les enfants qui étaient nés de césarienne et qui avaient donc un microbiote appauvri dans cette période importante des deux premières années où cette symbiose elle doit être parfaite dans son fonctionnement, il leur manquait des taxa microbiens, en particulier quatre taxa microbiens principaux. Et donc, la suite de ces expériences, Bicky avait montré que des souris sensibles à l'asthme voyaient leur asthme aggravé lorsqu'on mettait ces flores par rapport à des flores normales. La suite des expériences sera bien entendu des expériences chez l'homme qui vont consister assez rapidement, certaines sont déjà en cours, à enrichir la flore de l'enfant à la naissance en particulier, de manière à éviter cette carence microbienne en diversité qui ne programme pas au fond le système comme il a été éduqué et programmé par la coévolution jusqu'à présent. Et je vous ai rajouté, histoire de parler un peu de nous de temps en temps. Ce papier qu'on vient de publier dans PNAS avec mon ami et collègue Iraj Sobhani à l'hôpital Henri Mondor. Iraj est un spécialiste du cancer du côlon et de l'interface microbiote et cancer du côlon. Et ce qui est montré dans ce papier, c'est que lorsqu'on prend des selles de sujets présentant un cancer du côlon et qu'on les transfère à des souris germ-free, dans les semaines qui suivent, on voit apparaître des lésions précancéreuses avec des cryptes aberrantes. Et surtout, on voit apparaître des signatures épigénétiques, des déméthylations de promoteurs qui correspondent à des gènes dont on sait qu'ils sont déméthylés ou dont les promoteurs sont déméthylés dans le cancer du côlon. Donc, vous voyez, c'est l'idée que la corrélation, c'est joli, mais l'expérimentation et la démonstration, au fond, l'apport des postulats de corps écologiques, comme on les a appelés dans une revue récemment, est un élément qui va véritablement nourrir notre compréhension de cette symbiose et l'importance, encore une fois, de ces microbes. Je voudrais juste terminer sur quelques diapos, très rapidement, parce que, bon, on a été, ou je l'ai été, vous y avez été soumis, passablement anthropocentrique jusqu'à présent, et on a un petit peu tendance à oublier que les microbes, c'est notre environnement quotidien, à la fois, encore une fois, l'environnement tellurique et l'environnement océanique. Et pour juste donner des chiffres, les microbes, ça représente 50% de la biomasse de la Terre et environ, en termes de diversité d'espèces de la biosphère, c'est 95%. Donc, bien entendu, la diversité telle qu'elle est exprimée là est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est menacée. Mais en regard de ça, les pathogènes, c'est rien. C'est, là, on a mis un 3%, mais c'est 1% et encore. Donc l'immense majorité des microbes sont des microbes qui sont des composants d'écosystèmes non pathogènes et qui assurent au fond l'équilibre de ces écosystèmes. Et ce qu'on voit au fond de la microbiologie, surtout ce qu'en voyaient les microbiologistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'était la partie émergée, c'est-à-dire les pathogènes les plus méchants. Mais le reste, ce qui est sous la surface de la mer, est quelque chose qui maintenant prend une importance énorme, d'autant plus qu'on est en train de réaliser que cet écosystème global s'appauvrit en diversité microbienne. Et donc j'ai bien aimé cet article très récent par un groupe français d'ailleurs, dont le titre m'a pensé suffisait à résumer la situation, c'est « High microbial diversity promotes soil ecosystem functioning ». On ne peut pas imaginer un écosystème intestinal, un écosystème cutané, au même titre qu'on ne peut pas imaginer un écosystème terrestre, et Dieu sait ce qu'on connaît maintenant, on a parlé des antibiotiques relâchés dans la nature abusivement, on a parlé éventuellement de drogues, on peut parler de pesticides qui ont effet microbicide. On est en train de voir, au même titre que d'autres catastrophes naturelles, si je puis dire, l'effet négatif de l'usage d'un certain nombre de composés, alors que leur utilisation réfléchie probablement permettrait de améliorer la situation. Là, on a l'impression d'être quand même dans une étape d'accélération de la dégradation des écosystèmes qui est importante. Alors, sans vouloir faire de dramaturgie excessive, je m'étais dit juste pour les 3-4 dernières diapositives, on pouvait faire un scénario catastrophe. Ça pourrait être un scénario à la Michael Crichton, d'imaginer un super bactériophage qui, demain, décime les populations microbiennes, humaines, animales et terrestres. Et au fond, est-ce qu'on peut bâtir un scénario rationnel de ce que serait véritablement un monde sans microbes ou un monde en perte massive de ces populations microbiennes? Et là, je parle des bactéries, mais aussi des champignons et éventuellement de protozoaires unicellulaires. Au fond, ce qu'on verrait peut-être d'abord pour nous, les infectiologues, c'est la disparition des maladies infectieuses bactériennes. Enfin bon, ce serait bien, hein, mais probablement les maladies virales s'aggraveraient parce qu'on sait que le microbiote, par exemple, a un rôle important dans la maturation et la stimulation du système immunitaire. Dans les modèles expérimentaux, les infections virales sont plus graves chez les animaux dont on a supprimé la flore intestinale, par exemple, que chez les animaux conventionnels. Donc, je ne sais pas ce qu'on y gagnerait, ce qu'on y perdrait, mais probablement, ce serait quelque part équilibré. Et puis surtout, ça nous révélerait Cette face cachée, celle qu'on ne voit pas ou qu'on ne considère pas au jour le jour, la portion immergée de l'iceberg, du rôle de ces populations microbiennes dans l'équilibre des écosystèmes à l'échelle globale, avec d'abord et avant tout une réduction massive de fonctions biologiques essentielles, à la fois parce que cette biomasse produit des composés qui sont importants pour le sol, pour l'équilibre des sols, et en particulier, bien entendu, la problématique de la fixation de l'azote, qui est quelque chose qui est intrinsèque à la symbiose entre les microbes et les plantes, que ce soit dans la rhizosphère, c'est-à-dire diffus autour des racines, ça c'est pour les végétaux en général, ou que ce soit pour les légumineuses une véritable symbiose ou endosymbiose, puisque vous savez que les légumineuses fixent l'azote grâce à des micro-organismes comme Agrobacterium tumefaciens, qui vivent dans des structures appendues aux racines de la plante et leur fournissent, au fond, les composés après fixation de l'azote qui vont leur permettre de fabriquer les nitrates qui vont être, au fond, la source d'azote consommable par les végétaux. Donc, la disparition des microbes nous amènerait dans une situation de catastrophe biologique à l'échelle des cultures et des forêts qu'il n'est pas très difficile d'imaginer. Et les éléments de remédiation consisteraient essentiellement à essayer de remplacer la fonction de ces microbes en matière, par exemple, de fixation d'azote, c'est-à-dire d'inonder nos terres par des nitrates produits industriellement, ce qui serait probablement pas nécessairement une bonne chose, peut-être sur le court terme, mais sans doute pas sur le long terme. Donc les microbes, il faut le réaliser, sont des éléments importants. Et entre ce scénario catastrophe dont je parlais là et ce scénario à minima, mais qui semble tout de même se confirmer avec le temps, il va falloir que toutes les grandes études, là maintenant, qui se font à l'échelle de la planète, en matière de diversité microbienne des écosystèmes. Par exemple, on a déjà parlé, où Chris Bowler avait fait un séminaire il y a 3 ans ou 4 ans, ici, sur l'opération Tara Ocean et l'échantillonnage des mers, des zones mésopélagiques, pour la surveillance, au fond, de l'équilibre des populations microbiennes, de leur diversité avec le temps et avec en particulier maintenant les problèmes liés au réchauffement climatique. Tout ça nous amène à réfléchir sérieusement à une vraie surveillance globale de la diversité microbienne dans les écosystèmes, en particulier les écosystèmes qui vont avoir un impact direct sur la nutrition des espèces humaines et animales. Il y a d'autres conséquences, bien entendu, de cette perte des populations microbiennes à envisager. Encore une fois, ce ne sera jamais du tout ou rien, mais ça pourrait être progressivement des choses plus importantes, en particulier l'impossibilité pour les ruminants d'hydrolyser et de fermenter la cellulose, donc pas que sur production de viande, de lait. L'arrêt de la décomposition des cadavres, ça serait formidable parce que la planète sentirait moins mauvais, mais on aurait des masses d'animaux incapables de rentrer en putréfaction. La putréfaction est d'ailleurs un élément important du réenrichissement des écosystèmes microbiens et autres. Et puis, toute la problématique de biodégradation. Avec beaucoup de microbes, en particulier dans des écosystèmes extrêmes, ont des capacités de dépollution. On les utilise même maintenant quand il y a une marée noire pour dégrader les hydrocarbures, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large et c'est quelque chose qui porte, c'est un sujet qu'on a commencé dans le labo, je voudrais bien qu'on puisse le continuer, sur la capacité de certains de ces micro-organismes intestinaux, au fond, à biodégrader, parce que souvent ce sont des micro-organismes qui viennent de l'environnement, donc qui ont des capacités de biodégradation importantes et très riches, à biodégrader les molécules toxiques éventuelles, ce qu'on appelle les xénobiotiques, dont on sait que ces molécules ont un rôle sur les cellules, en particulier sur les cellules souches, sur la cassure de l'ADN, donc sur la survenue de mutations et la possibilité de développement de cancer. Donc sans microbes, probablement, on aurait une flambée de cancer par non-dépollution de l'environnement immédiat d'un certain nombre de ces molécules et de ces xénobiotiques. Donc un scénario optimiste, et en cela, au fond, Pasteur avait raison, la vie sans microbes, peut-être, elle est possible, mais c'est quoi la vie ? Et la vie sans microbes, ce serait, dans le scénario le plus optimiste, des systèmes extrêmement dégradés, une incapacité probable à nourrir la planète, avec en particulier les quelques milliards d'habitants qui la peuplent, et donc toutes les complications, y compris politiques, économiques et les guerres qui s'en suivraient. On voit déjà se poindre la guerre de l'eau, mais la guerre alimentaire pourrait aussi se développer. L'autre étant, et peut-être c'est des choses qui sont déjà survenues dans des épisodes de l'histoire, l'épuisement total des richesses. On pense que la civilisation de la Mésopotamie, par exemple, a disparu du fait de l'épuisement des sols par les méthodes d'irrigation et l'intoxication des écosystèmes. On aurait là, sans les microbes, des situations probablement similaires. Et donc, la vie sans microbes, même si elle serait possible, ça ressemblerait probablement à ça. Et encore une fois, je pense que Pasteur avait tout à fait raison dans son anticipation de l'importance des microbes, même si la vie axénique est possible. Elle est loin d'être ce qu'on pourrait espérer qu'elle soit, bien entendu. Donc, je voulais terminer en disant que c'est une interprétation assez libre des évangiles. Pasolini avait eu son interprétation très controversée de l'évangile selon saint Matthieu. Donc moi, j'ai la mienne et je vous l'offre comme cela pour résumer un petit peu la situation. Mais il est certain que... je pense que Koprowski, dans son raisonnement, avait raison. C'est une ligne de front. Il faut à la fois pouvoir maîtriser les infections et en même temps préserver nos microbes, les non-pathogènes, bien entendu, et ça va probablement nécessiter un certain nombre de changements, parfois drastiques, dans nos approches à la fois médicales, vétérinaires, et dans nos approches de la santé des écosystèmes. Alors, je voulais juste terminer en deux mots, en vous disant que, bien entendu, c'est ma dernière leçon, et j'ai beaucoup d'émotions en vous disant ça. C'est une photo que j'ai prise avec mon épouse il y a quelques mois. Elle m'avait emmené à Berlin pour mes 70 ans, et dans le nouveau musée d'art moderne de Berlin, il y a ce grand couloir avec exit, 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 exit. Et je me suis dit, ça, c'est moi dans quelques mois. Et c'est d'autant plus, je dirais, difficile que ça a été, jusqu'à présent en tout cas, une vie à la fois passionnante sur le plan médical, sur le plan scientifique. J'ai eu la chance de pouvoir appartenir, en plus de l'INSERM, le Collège de France, l'Institut Pasteur, bien entendu, qui a été ma maison pendant des années, mais aussi à un certain nombre d'académies nationales, internationales, d'avoir participé à des projets internationaux, européens. Tout ça a été une vie assez trépidante et passionnante. Et au fond, quelque part, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous restituer au fil de ces 12 ans de leçons au Collège de France. C'est, disons, une expérience. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est celle d'un médecin qui a voulu faire de la science, de quelqu'un qui s'est intéressé à la fois à des aspects fondamentaux et puis aussi à des aspects extrêmement appliqués, comme le développement de vaccins, avec, je dirais, presque un certain militantisme pour ce qui concerne la vaccination. Ça, c'est tous les gens à qui je dois rendre hommage et les remercier de m'avoir accompagné dans cette aventure. C'est les étudiants, les post-docs qui, au fil des années, depuis 30 ans, m'ont accompagné, nous ont accompagné dans ce laboratoire, l'Institut Pasteur, qui aussi participe à l'INSERM, qui donc, encore une fois, a nourri en partie mes présentations ici. Vous montrez aussi que les laboratoires, c'est quelque chose de formidable parce que c'est international et la plupart d'entre vous le savent. On a eu, en 30 ans, 36 nationalités différentes dans le laboratoire et vous voyez que ce n'était pas uniquement des Européens ou des Nord-Américains. Et ce n'était pas toujours ceux qui venaient des régions les plus défavorisées qui étaient les plus mauvais. On en a rarement eu des mauvais. C'est une expérience à la fois scientifique et humaine absolument extraordinaire que je voulais vous raconter. Et bon, la question, au fond, c'est est-ce qu'il y a une vie après la retraite ? La réponse est oui, de plus en plus d'ailleurs, et on en entend pas mal dans les rues ces temps-ci. Et donc, voilà ce que j'ai décidé de peut-être changer un petit peu les choses, m'occuper un petit peu plus d'être peut-être un meilleur grand-père qu'un père, mais ça, on en est tous là à un moment ou à un autre, de continuer à écrire si possible. Je crois que mes cours au Collège de France, et c'est souvent le cas pour beaucoup des professeurs, sont une occasion d'accumuler de l'information pour pouvoir écrire des ouvrages au-delà des articles scientifiques. Le problème, c'est que la science évolue tellement vite qu'il ne faut pas laisser les choses très longtemps, car on est obligé de les remettre à jour très vite. Et puis, je me suis lancé dans cette aventure à temps partiel, tout de suite, enfin, pour rassurer certains, dont mon épouse, dans la mise en place de ce centre. C'était un peu un rêve qui s'avait capitalisé sur des études qu'on a faites en Afrique sur la nutrition, on en a déjà parlé, et la santé et le développement de l'enfant. Donc de faire un centre qui s'appelle le Center for Microbes Development and Health, où on va essayer de justement interroger ces phases précoces de la vie et la façon dont les microbes influencent le développement précoce de l'enfant. Et ça se fait dans le cadre de l'Institut Pasteur de Shanghai, avec le financement de la Chinese Academy of Science. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre fidélité au fil des années, de vos questions, de vos suggestions, questions parfois un peu décapantes, mais c'est toujours bien parce que dans les séminaires scientifiques stricto sensu, on est habitué à des questions assez calibrées, assez stéréotypées. Là, parfois, on a des questions qui nous paraissent un petit peu hors sujet, et puis dès qu'on réfléchit, on s'aperçoit qu'au contraire, c'est tout à fait dans le cadre, simplement. On n'a pas toujours réfléchi aux choses sous cet angle-là parce qu'on a un peu le nez dans le guidon. Donc je crois que ça aurait été une magnifique expérience. Et puis cette nécessité, bien entendu, de lire, peut-être plus que lorsqu'on est fixé sur un seul sujet. Je crois qu'un des bénéfices de l'enseignement, c'est aussi d'être obligé d'élargir son horizon. Donc je vous remercie encore une fois d'être là pour votre fidélité. J'espère que la microbiologie continuera au Collège de France, que les chaires s'arrêtent avec leurs titulaires, mais elles peuvent ressurgir comme les phénix à un moment ou à un autre. Donc je laisse ça à mes successeurs, bien entendu. Et donc je vous présenterai tout de suite Tamara qui va nous faire son séminaire. Donc merci beaucoup. Merci.